France Musique. Bonjour Paul Ardenne.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, historien de l'art, commissaire de l'exposition Courant Vert créé pour l'environnement qui est à découvrir à l'espace Fondation EDF jusqu'au 31 janvier. Courant Vert créé pour l'environnement, une réunion d'artistes internationaux engagés dans le combat écologique qui dénonce les effets de l'activité humaine sur l'environnement. Doit-on parler, Paul Ardenne, et ça c'est une grande question, c'est un vaste débat, je le sais, d'art écologique, d'art environnemental, d'art vert? Quelle est la bonne appellation?
Il n'y a pas de terme, en fait. Tout dépend. D'ailleurs, on se trouve, on a pris l'habitude en France de dire art écologique ou art environnemental. Si vous allez dans le monde anglo-saxon, on va parler de eco-art. Bon, ce qui n'est pas non plus très clair, puisque ça peut renvoyer à l'économie. Donc, il n'y a pas vraiment de label, mais disons que cette appellation est en train de se fixer progressivement. Et je pense que le terme d'art écologique, sans doute, va l'emporter, en tout cas dans le domaine francophone.
Et comment pourrait-on la définir, cette notion-là?
Mais en fait, il s'agit d'artistes, en l'occurrence ici des plasticiens, mais il n'y a pas que ça, hein, puisque là c'est une exposition sur les arts plastiques et un petit peu la bande dessinée, mais ça peut être tous les domaines de la création, bien sûr. Ce sont des artistes qui, d'abord, sont très souvent des gens très préoccupés par la situation environnementale du monde dans lequel nous vivons et qui apportent des réponses qui peuvent être assez diverses, soit de l'ordre de la dénonciation, de l'alerte, comme on dit, des lanceurs d'alerte. Bon. Il y a moins à faire maintenant parce que on est quand même relativement au courant de la situation. Soit des œuvres qui pour moi sont sans doute les plus intéressantes et celles qui posent le plus de questions, des œuvres qui relèvent de l'action qu'on appelle contextuelle, c'est-à-dire l'artiste agit dans un contexte particulier, il essaie de réagir à une situation. Par exemple, vous avez des artistes qui vont reforester des lieux, vous en avez d'autres qui vont travailler, améliorer la situation, par exemple des coraux, des barrières de corail, d'autres qui vont essayer de mettre en avant un combat pour la valorisation juridique de la notion d'écocide, par exemple. Bon, ça devient très, comme on dit, justement contextuel, c'est-à-dire non pas un art uniquement pour l'esthétique, mais un art pour l'action, en vue, bien souvent, de ce qu'on peut appeler une éthique. C'est l'esthétique ici rejoint l'éthique ou même parfois l'éthique déborde l'esthétique. Ce qui n'est pas sans poser un problème d'ailleurs en termes justement esthétiques, puisque pour certaines personnes, la question est posée, mais qu'est-ce que l'art? Est-ce que c'est ça réellement? Et c'est en ce sens-là que ces formes d'art dites, on va dire écologiques, font avancer la notion d'art d'une manière très très intéressante, qu'on sache exactement ce que cela donnera, puisque c'est un art qui a une quarantaine d'années maintenant, mais qui est très très peu médiatisé, trop peu bien sûr, et d'une certaine manière dont les formes ne sont pas encore totalement fixées.
Et puis c'est aussi une notion, on va dire, qui dépasse, on va dire, le simple thème de l'environnement.
Mais oui, c'est-à-dire en fait, la plupart des gens ont un rapport, on va dire, à la nature, enfin comprise comme notre environnement hors urbain, on va dire plutôt comme ça, qui est un rapport de sympathie, d'empathie, mais maintenant même de co-souffrance d'ailleurs de plus en plus. Beaucoup de gens souffrent avec cette nature, donc qui est très violemment prise à partie par les activités humaines, prédatrices notamment. Bon, donc. La sympathie, elle est de fait, mais vous pouvez pas, vous contenter peut-être de réaliser uniquement des œuvres qui chantent la beauté d'une nature parfaite, d'une nature éthérée, une nature, au fond, qui constitue un paradis depuis longtemps perdu. Je dirais pas depuis toujours perdu, mais depuis longtemps perdu. Alors, ça, c'est intéressant parce que on a quitté la vision romantique. Moi, j'adore la symphonie pastorale, par exemple, de Beethoven, la symphonie numéro 6, d'autant plus que c'est un musicien qui était quasiment sourd, qui l'a composé déjà, et donc qui avait besoin d'images, parce que Beethoven composait en voyant des images. Il se mettait devant des images mentales et il composait. Mais on peut plus aujourd'hui faire ça, c'est-à-dire uniquement des œuvres qui nous représentent de beaux paysages, la nature triomphante. Cette vision romantique, d'une certaine manière, gardons-la pour nos rêves, pour nos espérances, ou pour certaines scènes, comme, je sais pas, Soleil Vert de Richard Fleischer, où on voit un homme qui va mourir, et avant de mourir, eh bien, il s'enferme quelque temps dans une capsule où il peut voir des images de ce qu'était le monde d'avant, on pourrait dire la catastrophe environnementale. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus regarder le monde de cette façon, bon, qui était celle dont les romantiques le regardaient au 19e siècle, début du 19e. Et 18e avec Jean-Jacques Rousseau, bien sûr.
Une impression agréable en arrivant à la campagne, Karajan, ici, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, les premières mesures de cette symphonie pastorale de Beethoven que vous avez justement choisie pour nous, Paul Ardenne. En illustration à cette exposition Courant vert créée pour l'environnement dont on parle ce matin, vision romantique, hein, vous nous le disiez, ce sont peut-être des visions plus réalistes que nous pouvons découvrir au sein de cette exposition par le biais d'installations, de photographies, de vidéos, de dessins. Il est question de pollution, de réchauffement climatique, d'extinction des espèces. Et vous avez choisi, Paul Ardenne, en tant que commissaire de cette exposition, de la construire autour de trois axes. Avertir, agir et rêver.
Oui, c'était le désir aussi de la Fondation de pas écraser le crayon un peu trop. Bon, pourquoi ? Parce que la situation, je crois, est bien connue. Elle est plutôt désastreuse, on va dire. Surtout en ce moment, on a tellement d'exemples entre les fonds de banquise, les grands incendies en Sibérie, en Californie, etc. Bon. On n'avait pas le désir de mettre en quelque sorte les visiteurs d'exposition en face d'une situation qu'ils connaissent bien par ailleurs, qui produit beaucoup de culpabilité, qui produit beaucoup aussi de désespoir, y compris chez les jeunes générations, légitimement d'ailleurs, on le voit bien. Et on voulait éviter ces deux effets. D'abord une célébration de la collapsologie, ou du collapse, hein, c'est-à-dire de l'effondrement, qui peut-être viendra au fond. Moi je suis pas un grand spécialiste des questions scientifiques liées à la climatologie. Et d'autre part ce qu'on appelle la solastalgie, c'est ce concept, un peu discutable, mais intéressant dans la mesure où il met en avant l'idée que, normalement, dans notre demeure, la maison, la terre, la maison terre, on devrait se sentir bien. C'est un espace, normalement, pour nous protéger. Et or, c'est exactement l'inverse. On a la nostalgie d'un temps de bonheur soleste qui a été perdu, et on se sent mal. C'est-à-dire, on se sent mal. Alors, on voulait éviter ces deux données-là. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais pour dire, il y a aussi autre chose. Il y a un combat environnemental incontestable, et là-dessus, je veux absolument saluer tous ces militants, quels qu'ils soient, d'ailleurs, même les militants du quotidien, qui s'attache à aménager un petit peu l'environnement dans lequel nous vivons. Saluer aussi tous ces militants assassinés de par le monde. Hein. On en compte plus d'une centaine l'année dernière et le chiffre est en expansion, hein, notamment en Amérique latine, en Asie, etc. Tous ces gens qui s'opposent aux déforestations massives ou aux monocultures spéculatives, bien évidemment. Donc il y avait cette idée que il faut mettre l'accent sur l'action et que les artistes, et les artistes plasticiens notamment, quelques-uns que nous montrons et beaucoup d'autres, parce que ce n'est qu'une sélection assez médiocre en fait, il faut bien le dire, et sans doute discutable, sont à l'action. Ils sont à l'action. Et c'est quand même une chose nécessaire. Le monde ne nous est pas donné comme une sorte de cadeau, comme ça, dont on pourrait jouir sans aucune réciprocité. Vous voyez, nous avons aussi des devoirs, et ces artistes-là sont du côté du devoir, d'une certaine manière, et ça les rend pas, par exemple, ennuyeux, ou ça ne produit pas des œuvres uniquement conceptuelles, déclaratives, vous voyez, qui sont chaque fois des manifestes. Il y a au contraire une dimension poétique et qui est incontestable et qui permet justement d'accroître la dimension affective que l'on peut avoir avec l'élément naturel et de nous pousser vers le désir d'une sorte de restauration, enfin en tout cas tout ce qui sera possible de restaurer. J'espère qu'il sera possible de restaurer quelque chose.
Et ça me rappelle justement une exposition que vous m'avez rappelée, Paul Ardenne, qui questionnait justement ces questions-là. En 2016, la Fondation Cartier pour l'art contemporain proposait le Grand Orchestre des Animaux, exposition inspirée par l'œuvre de Bernie Krause, musicien et bioacousticien américain. Ici, ce titre Océan, une immersion sonore pour sensibiliser le public. Il y a ici, évidemment, énormément de poésie aussi.
Oui, mais alors, Bernie Krause est très légitimement connu. Hervé Chandès à la Fondation Cartier avait eu l'excellente idée de valoriser ce travail qui a été une découverte pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le fait de nous faire écouter de nouveau les bruits de la nature. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde mécaniquement bruyant, industriellement bruyant, socialement bruyant, qui fait que nous n'entendons plus, d'une certaine manière, la signature sonore du monde de l'environnement, qui est absolument réelle. Bon, il faut entendre Bernie Krause vous dire, mais vous savez, même le maïs, par exemple, a une signature sonore. Tous les éléments naturels dans la nature ont une signature sonore. Le tout est de la saisir. Et cette exposition était au fond formidable parce que elle était constituée en fait d'enregistrements. Aucune invention, aucune dimension, on pourrait dire une volonté d'esthétiser tout ça, mais juste la saisie réaliste. Vous enregistrez par exemple une forêt, que ce soit une forêt indonésienne, donc équatoriale, que ce soit, je sais pas, une forêt normande, là, la forêt de Bord, pas très loin d'ici, et vous entendez toute cette extraordinaire vie qui est celle du biotope, le vivant, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, il y a tout cet univers. Et c'est extraordinaire de nous permettre de montrer ça dans un monde, dit Bernie Krause, où ce qui a disparu, c'est le silence et de fait la capacité de l'écoute. On ne peut écouter que quand on a des moments de silence, hein, des pauses en quelque sorte pour reprendre la mesure de ce qu'est le ton.
Et dans l'exposition, vous nous faites, vous, écouter Paul Ardenne, un couple d'artistes, Lucie et Georges Horta. On va en écouter quelques instants et puis vous nous en parlez. Symphonie pour une vie sauvage absente, ça c'est une autre manière de nous faire écouter aussi.
Oui, il s'agit d'une œuvre très très forte, très belle aussi, de deux artistes qui vivent à Paris, non loin de Paris, dans la Brique, sont Lucie et Georges Horta. L'une est anglaise, l'autre est argentin. Ce sont vraiment des grands représentants de la cause environnementale et plus largement de la cause humaniste, on va dire. Ils sont au travail depuis maintenant une trentaine d'années. Cette symphonie pour la vie sauvage absente ou une vie sauvage absente a été créée il y a une dizaine d'années pour la première fois au Canada, donc à Banff, non loin de Vancouver. Et elle consiste en fait pour ces artistes à réunir un chœur d'instrumentistes qui vont jouer avec des apôts, les sons des animaux, soit disparus de la région, soit en voie de disparition. D'où le titre, cette symphonie pour cette vie sauvage absente. C'est quelque chose tout à fait prégnant que cette représentation-là. Et ils ont depuis trois reprises, depuis cette première version, enrichit cette version qui devient une des grandes œuvres musicales, on pourrait dire, du début du 21e siècle. Et c'est très intéressant parce que c'est une œuvre où, en fait, vous n'avez pas de composition à proprement parler, on est dans le domaine de l'empreinte. Et c'est assez intéressant parce qu'on est 100 ans après Luigi Ruzzolo, par exemple, le futuriste, qui avait écrit ce fameux traité sur l'art des bruits en disant, si on veut écouter de la musique, c'est simple, il suffit d'écouter le monde tel qu'il est, vous avez déjà la musique du monde. On va retrouver ça chez Edgar Varèse, enfin dans Ionisation, même un peu chez Satie, hein, donc dans Parade avec la machine à écrire, par exemple. Bon, ce sont des nouvelles formes de composition très intéressantes qui relèguent très très loin, extrêmement loin, tout le, on pourrait dire la composition savante, en particulier celle héritée du dodécaphonisme, de l'école de Darmstadt, par exemple, où bon, vous avez toujours cette recherche d'un son parfait, d'une esthétique absolue. Bon, on sent qu'au fond tout ça, c'est du transcendantalisme. graphisme au fond complètement déconnecté de ce qu'est la réalité et qui suffit d'une certaine manière d'écouter la nature pour trouver justement ce qu'est peut-être cette véritable musique humaine, c'est-à-dire celle qui nous environne. Alors, j'ai montré une autre œuvre aussi d'un artiste américain, un jeune artiste appelé Nathan Grimes.
J'allais vous en parler.
Voilà, très, très intéressante de ce point de vue-là. Alors, voilà, peut-être, moi, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'elle vous a beaucoup marqué? Je vais renverser un peu les rôles.
De par sa simplicité. Oui. De son évidence, je pense que c'est vraiment ça qui m'a touché.
Oui, alors
expliquez-nous.
Oui, il faut l'expliquer. C'est assez complexe. C'est une œuvre qui s'appelle Quand le boulot, l'écorce de boulot chante. Bon, voilà, donc vraiment. Et il s'agit pour cet artiste tout simplement de composer à partir de l'œuvre naturelle. Voilà, à partir de l'œuvre naturelle. Beaucoup d'artistes dans l'exposition laissent la nature travailler. Par exemple, vous avez un Fernando Prats qui va noircir des toiles à la fumée. Il les installe ensuite dans le paysage, le long de la mer ou dans un désert, et en fait, c'est ce que la mer produit, ce que la poussière du désert, le vent produisent, qui font le tableau. Et il va chercher cette œuvre et il l'expose ensuite telle qu'elle. Nathan Grimes part d'un poème de Lucy Larcom, qui était une poétesse américaine, une contemporaine de Walt Whitman. Donc ce mouvement avec Soro, ce mouvement américain très transcendantaliste, amoureux de la nature, de l'environnement. Et elle parle, Lucy Larcom, elle parle de l'écorce du bouleau, de sa beauté, etc. Et donc l'artiste va décoller une écorce de bouleau, et à partir de cette écorce, dont les dessins constitue l'équivalent d'une partition. Il reproduit cette partition sur le plan d'un piano à queue et ça lui donne une musique justement que nous allons entendre, j'espère, extrêmement curieuse.
Écoutons-la.
Si je puis me permettre de briser un peu l'harmonie, ici, c'est la rythmique, donc des lignes qui, en quelque sorte, dessinent l'écorce du bouleau. Hein, c'est leur longueur, la tonalité, la hauteur, etc. Et ça produit cette musique. Alors, ce sont des formes de composition très intéressantes. Je voudrais y insister parce que on a toujours cherché à composer avec des sortes de pré-positionnement, bon, dans la musique classique, dans la musique moderne, on parlait du dodécaphonisme tout à l'heure, il y a cette recherche d'une composition qui soit en accord avec le monde dans lequel on vit, ou le monde dont on rêve. Et là, on voit que finalement, la composition est dictée par l'écorce de bouleau elle-même. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça signifie qu'au fond, quand on voit tous nos compositeurs de musique contemporaine qui souvent s'échinent à produire donc de merveilleuses machines sonores, mais le plus souvent très très ennuyeuses, eh bien, au fond, la nature elle-même donne, pour peu qu'on puisse traduire, vous voyez, hein, qu'on puisse traduire la manière, ce qu'elle dit en musique, elle nous donne déjà des symphonies merveilleuses.
Voilà, l'artiste s'efface derrière la nature, ou du moins, on devient son traducteur. Des installations, des photographies, des vidéos, des dessins, des installations sonores également, comme on l'écoute à présent dans cette exposition. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, Paul Arden, vous avez déjà été commissaire de plusieurs expositions qui traitent de cette question environnementale. Peut-être, quand vous êtes à l'écoute du monde d'aujourd'hui, quelle évolution avez-vous constaté depuis la première exposition et celle d'aujourd'hui présentée à la Fondation EDF ?
Moi, j'ai toujours un regret, c'est qu'il n'y ait jamais eu de grande exposition consacrée à l'écologie et l'art. Donc, c'est une première en France et même au-delà. C'est assez incompréhensible. De même qu'il est incompréhensible, on pourrait dire, le peu d'intérêt que suscitent ces formes de création par rapport, bon, à des artistes surconnus mais mineurs comme Jeff Koons ou d'autres, bon, qui focalisent beaucoup d'intérêt médiatique. Bon, ça, il faudra interroger le système pour expliquer les raisons de ces choix, qui sont des choix évidemment très, très contestables, très dangereux d'ailleurs sur le plan idéologique, et dont il faudra sans doute rendre justice à un moment donné. En revanche, je ne suis pas très optimiste, non pas parce qu'il faut l'être, mais il faut rappeler quand même qu'il y a 50 ans, c'était la création en 1970 de la Journée internationale de la Terre, que Greenpeace a été créé à ce moment-là,
22 avril.
Que le combat écologique est une très ancienne chose maintenant, un demi-siècle, et que si vous regardez bien, depuis cette période-là, tous les indicateurs de destruction écologique sont au maximum. Voilà, ce qui prouve bien que, d'une certaine manière, il ne faut pas se leurrer, il ne suffit pas de produire de belles œuvres, de rêver sur une nature sublimée que l'on pourrait réparer dans le cadre d'une, on pourrait dire d'une esthétique du soin. C'est très bien. Il faut aussi agir. Il faut pas seulement rêver. Il faut rêver. Il faut agir. Et il faut avertir, bien sûr.
Les trois piliers de cette exposition, Courant Vert, créé pour l'environnement, à découvrir à l'espace Fondation EDF dans le 7e arrondissement à Paris jusqu'au 31 janvier. L'entrée est libre. Un site fondation.edf.com pour toutes les informations. Écoutez, regardez le monde d'aujourd'hui avec Paul Ardenne comme commissaire de cette exposition. Et j'invite aussi nos éditeurs à découvrir cet ouvrage, un art écologique, création plasticienne et anthropocène, paru aux éditions Le Bord de l'Eau en 2018. Toutes les informations sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Paul Ardenne, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et restez avec nous.
À réécouter sur francemusique.fr.